La vie de Garcia Moreno. Premières années. Quand le voyageur a traversé l'Atlantique, franchi l'isthme de Panama et fait sur le grand océan un nouveau trajet de 250 lieues, il arrive enfin à Guayaquil. C'est dans cette ville qu'est né le 24 décembre 1821 Garcia Moreno. Il appartient à une famille ancienne, aussi distinguée par sa noblesse que par ses mérites. Son père, Garcia Gomez, était né en Espagne et était parti faire fortune en Amérique. Il s'installa à Guayaquil, où il épousa la señora Mercedes Moreno, lorsqu'éclata la révolte de l'Amérique contre la mère patrie, l'Espagne. Garcia Gomez resta fidèle à sa patrie natale, car il professait un souverain mépris pour ses faux indépendants qui voulaient s'affranchir non seulement de l'Espagne, mais surtout des habitudes religieuses dont elle avait pénétré ses colonies. Dieu récompensera les vertus de ces généreux chrétiens qui eurent de nombreux enfants et qui firent tous leur consolation, en particulier le plus jeune, Don Gabriel Garcia Moreno. C'est dans cette famille qu'il puisa ses sentiments de foi vive, d'honneur chevaleresque et surtout cette noble passion de devoir. D'opulente qu'elle était, la famille connut presque la gêne à cause des révolutions incessantes qui bouleversaient l'Amérique. C'est sa mère, une sainte femme, qui se chargera de son éducation. Élève brillant, il suit les cours de la faculté à Quito en septembre 1836. Il n'a qu'un seul désir, celui de savoir. On admire chez lui les éminentes qualités de son esprit, sa parfaite régularité, son ardeur au travail, mais par-dessus tout une fermeté de caractère. Il mène de front différentes besognes, enseignement de grammaire, études de la philosophie. Pourtant, on le voit assister aux exercices religieux avec plus d'assiduité. Il pense que Dieu l'appelle à l'état ecclésiastique. Il reçoit les ordres mineurs et la tonsure. Mais à 18 ans, il subit une sorte de crise. Son âme est trop élevée et trop pieuse pour ramper dans le vice. Et il se laisse dominer par la passion de la science. L'étudiant.
Il vise à une universalité de connaissances dont le besoin s'explique par la trempe particulière de son âme. Il veut tout approfondir, la littérature, l'histoire, la philosophie, les sciences, l'éloquence et la poésie. Doué d'une surprenante facilité d'assimilation, il alliait les études les plus contradictoires et quelquefois s'y adonnait à la même heure. On le vit suivre les démonstrations d'un professeur tout en lisant un livre traitant d'autres matières. Pour des études si variées et si nombreuses, cela demande un travail acharné. il vit comme un reclus au milieu de ses livres. Malgré sa célébrité, ses sentiments religieux n'ont subi aucune altération, mais les conseils de ses amis le poussent vers un poste plus militant. Dieu l'avait créé non pour être prêtre, mais pour escorter le prêtre, l'épée à la main.
L'avocat. Il se décide à suivre les cours de droit. Malheureusement, de nos jours, étudier le droit, c'est souvent désapprendre la notion du vrai et du juste, la déclaration des droits de Dieu, de l'Église, de la famille, pour concentrer tous les pouvoirs dans les mains du Dieu-État. Avec son esprit investigateur, Garcia Moreno comprit qu'il y avait des mystères à élucider, qu'il faut un chevalier sans peur et sans reproche, décidé à briser toute opposition pour arriver au triomphe du droit. Il prend goût aux réunions mondaines, mais se reproche ses heures perdues et, pour couper court, se fait raser la tête et s'enferme pour 6 semaines chez lui. Fort comme lui-même, Don Gabriel n'était pas moins intrépide quand il s'agissait de tenir tête à l'adversaire. Il veut arriver à cette intrépidité que rien n'émeut, pas même l'imminence d'un péril grave. Ainsi n'hésite-t-il pas à rester des heures sous un rocher prêt à se détacher de sa base, ou à explorer le cratère d'un terrible volcan d'où s'échappait une fumée assez chaude pour brûler, assez épaisse pour asphyxier. À 23 ans, il a le grade de docteur, mais il n'exercera que très peu ses fonctions d'avocat. Il épouse en 1846 la señora Rosas Casubi, noble dame qui lui apportait une parfaite conformité d'idées et de caractère. La Révolution. Après la lutte victorieuse des États-Unis contre l'Angleterre, on ne parla plus dans les colonies espagnoles que d'indépendance. Peu à peu s'implantent dans le pays des divisions et des haines religieuses. Les députés voltairiens et francs-maçons accordèrent aux faux cultes des licences que personne ne réclamait et affichèrent leur intolérance envers le clergé catholique. L'équatorien aime son église, ses prêtres et le vieux sang espagnol bouillonne. Bientôt, des sociétés patriotiques s'organisent pour la résistance. Unis de cœur et d'âme avec les patriotes contre la tyrannie, Garcia Moreno se joint à eux. Comment rester indifférent devant la force écrasant la religion et la justice? Des bandes parcourent la rue en criant « Vive la religion !»« À bas la Constitution !» Le gouvernement exige de prêter serment à la Constitution maudite. Évêques, docteurs, déclarèrent le serment illicite. Ils furent condamnés à la privation de leurs droits politiques et même à l'expulsion. C'était 1793 moins l'échafaud. C'est aussi la guerre civile. La révolution éclate le 6 mars 1845. Pour que le pays puisse sortir de l'impasse où le despotisme l'avait acculé, le gouvernement provisoire eut recours à un impôt extraordinaire. On chargea Garcia Moreno, qui s'acquitta de cette ingrate et pénible besogne, avec un désintéressement absolu. Il crée un journal, Le Vengeur. Dès son premier article, il signale ce qui le préoccupe. Les ennemis de l'intérieur. Il vise surtout les fonctionnaires enrichis par l'ex-président, les officiers et soldats. Pour Garcia Moreno, l'Équateur n'est plus qu'une espèce d'enfer, où le désordre et la confusion paraissent aussi bien naturalisés que dans le bagne éternel. Puis, Garcia Moreno passa quelques mois en Europe et comprend de plus en plus que Jésus-Christ est l'unique sauveur des peuples et qu'un État sans religion est irrémédiablement voué au sacre d'un autocrate ou au poignard des anarchistes. La défense des jésuites.
Au cours de son retour, il fit la rencontre de jésuites expulsés de la Nouvelle-Grenade. Il offrit aux exilés un refuge à Quito. Le gouvernement grenadin avait réclamé le bannissement des jésuites au nom de je ne sais quelle théorie franc-maçonnique, et Garcia comprit que c'était à lui que revenait la tâche et l'honneur de les défendre. Il disait :
On m'appelle fanatique et jésuite, parce que j'ai consacré mes loisirs à écrire cette défense, mais cela m'importe peu. Je suis catholique et fier de l'être. Chrétien et patriote. Je ne puis garder le silence sur une question qui intéresse au plus haut degré la religion et la patrie. L'exilé. Avec son pinceau d'artiste, il dépeignit avec vigueur l'ignoble conduite du gouvernement. Le président Urbina signa aussitôt l'arrestation de Garcia Moreno. Il réussit à s'échapper, mais il est bientôt exilé et il choisit Paris pour le lieu de sa retraite. Il reprend sa vie d'étudiant et il écrivait à l'une de ses amies. J'étudie 16 heures par jour, et si les jours en avaient 48, j'en passerai 40 avec mes livres sans bouger. Seul le Paris des études et de la prière l'intéresse. Il reprend bien vite ses habitudes de piété pour ne plus les quitter jamais. Il entend la messe tous les jours avant de se mettre au travail. Garcia vécut ainsi à Paris 2 années entières. Pendant que Garcia Moreno se préparait dans l'exil à son rôle régénérateur, l'Équateur vivait sous la dictature. L'Église étant la première force vitale d'une nation, il fallait la détruire ou l'enchaîner. Ainsi, les couvents sont occupés et 1000 horreurs s'y passent. Mais une amnistie générale fut décrétée et Garcia Moreno rentra à Quito. Le président réformateur. Il fut nommé recteur de l'université et comme en mai 1857 devait avoir lieu l'élection des membres du Congrès, il entra au Sénat pour arborer le drapeau de l'opposition. Et en dépit de ces illégalités tyranniques, le gouvernement d'Urbina, tyran du pays, fut battu par Garcia Moreno, qui triompha de Franco et de ses alliés péruviens. Le 1er mai 1859, après que les dictateurs eussent été déchus, il fallait substituer un gouvernement à celui qu'on venait d'abattre. Le nom de Garcia Moreno retentit la première année, lieu d'une tempête d'applaudissements. Il s'agit pour lui de jouer tous les rôles, instructeur, ingénieur, diplomate, général, chef d'État. Mais il sentait en lui ce génie universel qui suffit à toutes les nécessités. D'ailleurs doué d'une activité prodigieuse et d'une santé de fer, il suffisait à toutes ses besognes. Il va tenter de restaurer ce faible pays, l'Équateur, en commençant par le doter d'une constitution catholique. Seul moyen, disait-il, de moraliser le pays par l'énergique répression du crime et l'éducation solide des jeunes générations, de protéger la sainte religion des ancêtres et de réaliser les réformes que ni le gouvernement ni les lois ne peuvent obtenir par eux-mêmes. Après avoir favorisé la religion de tout son pouvoir, on décrète la réorganisation des finances, de l'armée, de l'instruction civique. Garcia Moreno, pour mener à bien son œuvre, va s'associer des coopérateurs intègres, laborieux, dévoués. Le président exerçait lui-même un contrôle sévère et une justice si inflexible que les infracteurs étaient punis d'un renvoi immédiat. Pour commencer son œuvre de régénération, Garcia Moreno fonda des écoles libres sous la direction de religieux enseignants. Dès l'année 1861, il fit appel au dévouement des congrégations françaises, frères des écoles chrétiennes, dames du Sacré-Cœur, sœurs de la Charité. Ainsi, l'enseignement catholique s'implantait dans le pays au grand désespoir des radicaux, toujours pressés de semer l'athéisme dans l'âme des enfants. Il se lança aussi dans la construction d'un immense réseau de voies carrossables à travers l'Équateur, afin de relier les villes entre elles et le plateau des Cordillères du port au port du Pacifique. Ce travail géant entrepris au commencement de sa première présidence, continué jusqu'à son dernier jour, suffirait à lui seul pour immortaliser 10 présidents de République. Le Concordat.
Garcia Moreno avait émaillé l'arbre en s'attaquant aux arbres les plus criants dans l'ordre matériel et moral. Osera-t-il maintenant porter la cognée jusqu'à la racine du mal, jusqu'au principe fondamental de la révolution, c'est-à-dire la souveraineté du peuple et la subordination de l'Église à l'État? Homme d'État, il comptait sur cette divine institutrice de peuple de l'Église pour régénérer son pays. Garcia Moreno sollicita du Congrès l'autorisation de conclure un concordat avec le Saint-Siège, car, disait-il, il faut que l'Église marche à côté du pouvoir civil dans de véritables conditions d'indépendance. En résumé, par ce concordat, le gouverneur de l'Équateur suppliait le Saint-Père de mettre un terme, par les moyens qu'il voulait, aux maux qui désolaient l'Église en ce pays, et lui laissait son droit de posséder et d'administrer ses biens. Le pape Pie IX lui répondit que ce concordat allait fournir au monde une nouvelle démonstration de l'unité catholique, du soutien mutuel que doivent se prêter la tiare et l'épée, et des liens indestructibles qui unissent la Rome éternelle à la terre privilégiée de l'Équateur. cet acte de politique chrétienne, acte unique dans l'histoire des nations modernes, Garcia Moreno s'élève au-dessus de tous les hommes d'État depuis Saint-Louis. Il rendit à son pays la vraie liberté en lui rendant le gouvernement de Dieu.
L'excommunié Mosquera. Si Garcia Moreno avait pour lui le peuple catholique, il pouvait se vanter d'être pour tous les révolutionnaires libéraux et radicaux l'homme le plus impopulaire et le plus exécré de l'Équateur. Nous allons assister au gigantesque duel du héros chrétien contre cette légion d'ennemis. Le président de la Nouvelle-Grenade, Colombie, Mosquera, persécuteur acharné de l'Église, ce monstre dont Pie IX disait en pleurant, Mosquera marche à grands pas vers l'enfer, ouvert pour le recevoir, haïssé en Moreno, le patriote chrétien et l'ennemi acharné des loges maçonniques. Il accusa Garcia Moreno d'avoir demandé à son arrivée au pouvoir le protectorat de la France. Il interprète cet acte en disant que Garcia Moreno voulait annexer l'Équateur à l'Empire français. Les tensions grandissent et l'Équateur est finalement obligé de prendre les armes. Malheureusement, la défaite de Coassud répand la consternation dans tout l'Équateur. Avec Mosquera comme maître du pays, c'était l'incorporation à la Colombie et surtout la persécution de l'Église. Garcia Moreno résolut de vaincre ou de mourir. Le 8 décembre, il lance un appel à tous.
Équatoriens, aujourd'hui plus que jamais, il faut de grands efforts pour sauver la religion et la patrie. Aujourd'hui plus que jamais, il faut opposer à notre injuste agresseur la barrière du courage héroïque et d'une invincible constance.
Garcia Moreno avait raison de s'appuyer sur un peuple profondément chrétien, car, à la vue de ce soulèvement en masse, Mosquera perdit sa fierté et fut rejeté du pays.
Président malgré lui.
Après ces rudes épreuves, Garcia Moreno se demanda s'il lui était humainement possible de continuer la lutte contre toutes les forces révolutionnaires. Car la révolution avait juré sa mort et ne désarmait pas. Mais l'Hercule chrétien, seul contre tous, accepta le défi de la révolution et jura que lui vivant, l'horrible mégère ne régnerait plus sur son pays. Jusqu'à présent, Garcia Moreno avait accepté la charge de président intérimaire, mais il fut réélu au mois de mai 1875 sans concurrent. Il avait déjà présenté aux députés son projet de constitution qui était en bref. Harmoniser les constitutions politiques avec les croyances religieuses. Investir l'autorité d'une force suffisante pour résister aux assauts de l'anarchie. La civilisation au fil du catholicisme dégénère à mesure qu'elle s'éloigne des principes catholiques. De là la débilité progressive des caractères, maladie endémique de notre siècle. Entre le peuple prosterné au pied des autels du vrai Dieu et les ennemis de notre sainte religion, il faut élever un mur de défense. Pour assurer la perpétuité, il fallait écarter du pouvoir les hommes de discorde. Pour cela, dans l'article de la Constitution relatif aux droits des citoyens, Garcia Moreno introduisit cette clause qu'on ne peut être électeur ou éligible ou fonctionnaire à un degré quelconque sans professer la religion catholique. Pour Garcia Moreno, le Dieu de l'Église catholique est le législateur suprême et, par conséquent, aucune puissance en ce monde, impériale, royale ou populaire, n'a le droit de légiférer si ce n'est en son nom ou sous sa dépendance. Le 30 juillet, il se rendit à la cathédrale pour la solennelle cérémonie du serment. « Je jure par Dieu notre Seigneur de remplir fidèlement ma charge de président de la République, de professer la religion catholique, apostolique et romaine. Ce serment, disait-il, m'oblige à me sacrifier pour la religion et la patrie sans craindre la mort. » Il savait ce qu'il attendait, car il n'avait pas manqué d'audace pour barrer le chemin aux chevaliers de l'équerre et du triangle. Dès ce jour, au sein de leur conciliabule, le nom de Garcia Moreno ne sera plus prononcé qu'au milieu des revolvers et de poignards. La civilisation d'une nation est un progrès quand cette nation se développe sur le triple point de vue intellectuel, moral et matériel. L'instruction publique.
Préoccupé de relever le niveau intellectuel, Garcia Moreno avait fait appel à différentes congrégations. À partir de 1871, l'instruction primaire, qui était gratuite, devint obligatoire. Il fonda aussi une université vraiment catholique. Selon les prescriptions du Concordat, les évêques avaient la haute main sur l'enseignement. Pour l'enseignement des sciences, il fit appel à des savants jésuites allemands, chimistes, physiciens, naturalistes, mathématiciens. Afin de compléter ses créations en joignant l'agréable à l'utile, Garcia Moreno fonda une académie des beaux-arts, où l'on cultiva plus spécialement la sculpture, la peinture et la musique. Il fit venir des professeurs distingués de Rome. Conclusion. Beaucoup s'imaginent que le révolutionnaire est nécessairement un progressiste et le catholique un rétrograde. Il ressort de ce que nous venons de dire deux vérités. Premièrement, en un demi-siècle, la révolution n'a rien su fonder à l'Équateur. Deuxièmement, en 6 ans, le catholique Garcia Moreno a fait passer son pays des plus profondes ténèbres à la plus resplendissante lumière.
De plus, dès 1862, il favorisa les missions qu'il établit sur des bases plus sérieuses. Sous l'inspiration de ce même zèle, le président s'efforça de ravir la foi, non seulement dans les pays sauvages, mais chez les chrétiens de l'intérieur. Il fit venir des rédemptoristes français qui réussirent à créer des foyers de véritable piété. Le président, à la tête de son peuple, assistait aux prédications de ceux que les braves gens appelaient les pères de leurs âmes. Il écrivit à un de ses amis. Dieu nous bénit, car le pays progresse véritablement. Dans notre jeunesse, on comptait ceux qui remplissaient leurs devoirs religieux. Aujourd'hui, l'on compte ceux qui les négligent. D'autre part, le progrès matériel est non moins admirable. On dirait vraiment que Dieu nous soulève de sa main, comme fait un tendre père pour son enfant, quand il l'aide à essayer ses premiers pas. Le président entreprit une organisation radicale de l'armée. Il la voulait forte, disciplinée, morale, instruite, pleine d'abnégation et de patriotisme. Moralisation du pays. Après avoir assuré l'instruction de son peuple, Garcia Moreno entreprit une tâche difficile, celle de moraliser son pays. Grâce aux nouvelles dispositions du code, le gouvernement pouvait extirper des villes les vices dégradants qui en sont la honte, tels que la prostitution, l'ivrognerie, le concubinage. Le président disait aux concubinerie.
Vous êtes libre de vous perdre, mais non de scandaliser le public.
Il y eut même des réformes dans les prisons, réformes basées sur la religion. Il travailla avec non moins de zèle à la réforme des hôpitaux afin de rendre plus sains, plus moraux, plus supportables les asiles où s'entassaient les pauvres et les malades.
Travaux et finances. Réforme aussi dans le domaine de l'agriculture, l'industrie et le commerce. On peut dire que la masse du peuple végétait dans la misère. L'agriculture et l'industrie ne pouvant prospérer, car il y avait à l'équateur une absence totale de communication et par la suite, impossibilité de transport et d'échange. Pour tirer son pays de cet état de prostration, Garcia Moreno fit construire des routes. Durant 10 ans, des milliers de travailleurs furent employés à construire des viaducs, des ponts énormes. Les ouvriers sillonnaient bois et montagnes, accompagnés d'un médecin et d'un prêtre. Question. Où trouvait-il l'argent pour faire face à de pareilles dépenses? En fait, toute la science économique de Garcia Moreno se trouve dans la maxime du maître dont il a fait sa devise. Chercher le royaume de Dieu et sa justice et le reste, c'est-à-dire la félicité temporelle, vous viendra par surcroît. Il va même enrichir le pays grâce à sa politique chrétienne. Avant de raconter le lugubre drame, attirons notre attention sur les vertus intimes de Garcia Moreno. Le chrétien.
Malgré son caractère impétueux et ses talents hors ligne, Garcia Moreno sut rester humble. Jamais il n'ambitionna la popularité. Jamais il ne s'est prévalu de ses œuvres qui cependant excitaient l'admiration du monde entier. Dans les congrès, il n'en parlait que pour rendre gloire à Dieu, persuadé qu'il devait tout à sa grâce. Pour lui, point de fête, de plaisir, de divertissement, plus ou moins honnête, mais la vie de travail régulière et uniforme. À la force de caractère, à l'amour passionné de la justice, se joignait dans le cœur de Garcia Moreno la plus exquise bonté. Avec ses amis, il se montrait toujours très simple, expansif, enjoué même, tout en conservant une certaine dignité. c'est surtout à l'intérieur de sa famille que la tendresse de son âme s'est penchée tout entière. Quand Dieu lui ravit sa petite fille, cet homme en apparence si rude et si austère resta longtemps inconsolable. « Oh, comme je suis faible !» s'écria-t-il, « moi qui me croyais si fort !» Le grand moteur de ses vertus, ou si l'on veut, le principe premier de cette vie héroïque, fut sa sincère et solide piété. Malgré ses nombreuses occupations, il consacrait une demi-heure à méditer. Ses résolutions donneront une idée de sa vie intime avec Dieu. Tous les matins, je ferai l'oraison et je demanderai particulièrement la vertu d'humilité. Chaque jour, j'assisterai à la messe, je réciterai le rosaire. Je prendrai soin de me conserver le plus possible dans la présence de Dieu, surtout dans les conversations, afin de ne pas excéder en paroles.
Le défenseur de l'Église. Malgré les grands actes de vertu dont se compose la vie de Garcia Moreno, son âme chrétienne ne serait peut-être jamais manifestée dans tout son éclat sans un grand événement qui stupéfia le monde catholique, c'est-à-dire l'envahissement de Rome par les troupes du roi Victor Emmanuel de Savoie. Ce dernier, s'étant installé cyniquement dans le palais du pape, qui lança l'excommunication contre les auteurs de cet abominable sacrilège. Seule une voix retentit. Garcia Moreno rédigea une énergique protestation dont il envoya la copie à tous les gouvernements, les exhortant vivement à réprimer avec lui la violente et injuste occupation de Rome. Hélas, aucun chef d'État ne fit écho au grand justicier. Il avait une admiration pour le pape Pie IX et il disait
« Je l'aime plus que mon père, car pour lui, pour sa défense, pour sa liberté, je donnerai même la vie de mon fils. »
L'assassinat. Le pays avait tellement changé en 5 années que les étrangers ne reconnaissaient plus le pauvre et triste Équateur d'autrefois. Mais la franc-maçonnerie décida d'en finir avec son implacable ennemi. Les bruits d'un assassinat prochain prirent tant de consistance que des personnes exposèrent leurs craintes au président. Mais il répondait « Je crains Dieu, mais Dieu seul. Je pardonne de mon cœur à mes ennemis. Je leur ferai du bien si je les connaissais et si j'en avais l'occasion. » Avec sa confiance en Dieu, il continua ses œuvres sans s'inquiéter de l'orage qui grondait sur sa tête. En attendant l'heure fatale, il se prépare, comme il dit. J'ai vu, après avoir mûrement réfléchi, que la seule mesure à prendre, c'est de me tenir prêt à paraître devant Dieu. Le 6 août, fête de la Transfiguration, il reçut le Dieu de l'Eucharistie, et comme il ne pouvait se dissimuler qu'il était en danger de mort, il prolongea son action de grâce. L'après-midi, il alla rendre visite au Saint-Sacrement. Des conjurés les pieds depuis le matin. L'un d'entre eux fit dire au président qu'on l'attendait pour une affaire urgente. Garcia Moreno sortit de l'église et les conjurés le poignardèrent. Étendu sur le sol, le moribond était sans mouvement quand son assassin se précipita pour l'achever. « Meurs, bourreau de la liberté » criait-il. « Dieu ne meurt pas. » murmura une dernière fois le héros chrétien. Dios no muere.
on retrouvera sur la poitrine du président une relique de la vraie croix et un agenda sur lequel il avait écrit le jour même ces mots qui suffisent à peindre l'âme d'un saint. Mon Seigneur Jésus-Christ, donnez-moi l'amour et l'humilité et faites-moi connaître ce que je dois faire aujourd'hui pour votre service. À l'annonce de cette mort, ce fut une très grande consternation pour tout le peuple. On nous dit que chaque famille venait de perdre un de ses membres. On disait, en immolant notre chef, une bande de scélérats a cru immoler du même coup la religion et la patrie. Mais l'esprit de Garcia Moreno restera avec nous. Le martyr du haut du ciel priera pour son peuple. Nous pouvons ajouter à l'honneur de l'humanité que la couronne de gloire fut posée en ces jours sur la tête de Garcia Moreno. Non seulement par le peuple au milieu duquel il a vécu, mais par toutes les nations catholiques sans exception. Le monde civilisé porta le deuil du noble chevalier de la civilisation chrétienne, et le grand Pie IX honora publiquement ce fils digne de lui. Le 20 septembre, dans sa prison du Vatican, parlant à de pieux pèlerins, il s'écria: au milieu des gouvernements livrés au délire de l'impiété, la République de l'Équateur se distinguait miraculeusement de toutes les autres par son esprit de justice et par l'inébranlable foi de son président, qui toujours se montra le fils soumis de l'Église, plein de dévouement pour le Saint-Siège et de zèle pour maintenir au sein de la République la religion et la piété. Et voilà que les impies, dans leur aveugle fureur, regardent comme une insulte à leur prétendue civilisation moderne l'existence d'un gouvernement qui, tout en consacrant au bien-être matériel du peuple, s'efforce en même temps d'assurer son progrès moral et spirituel. À la suite de conciliabules ténébreux organisés dans une république voisine, ces vaillants ont décrété le meurtre de l'illustre président. Il est tombé sous le fer d'un assassin, victime de sa foi et de sa charité chrétienne envers sa patrie. Victime de sa foi et de sa charité. Pour Pie IX, comme pour tous, la mort de Garcia Moreno fut la mort d'un martyr. Pie IX et Garcia Moreno, tous deux croisés contre la Révolution, l'un martyrisé par elle, l'autre emprisonné, le prisonnier louant le martyr devant l'humilité qui applaudit, et Dieu qui ne meurt pas, couronnant l'un et l'autre. Nous pouvons rester sur ce grand souvenir.
Et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Notre Seigneur est roi parce qu'il est Dieu. Et de nombreux passages des psaumes et du Nouveau Testament expriment la même qualité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est roi. Mais le pape Pie IX prend soin d'approfondir les raisons de cette royauté. Et la première est ce que l'Église appelle l'union hypostatique, l'union de la personne divine avec la nature humaine. Notre Seigneur est roi parce qu'il est Dieu. Et en effet, il n'y a pas deux personnes en notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas une personne humaine et une personne divine. Il n'y a qu'une seule personne, la personne divine, qui a assumé directement, sans passer par l'intermédiaire d'une personne humaine, une âme humaine et un corps humain. Par conséquent, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, nous disons la personne de Jésus-Christ. Or, cette personne de Jésus-Christ est une personne divine. Certes, Jésus-Christ est Dieu et homme, puisqu'il a assumé une âme humaine et un corps humain. Ainsi, l'âme humaine de notre Seigneur Jésus-Christ et son corps sont devenus tellement unis intimement à Dieu qu'on ne peut pas les séparer. Et de telle sorte que c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ tout entière qui est divinisée, qui est divine et qui divinise son âme et son corps. Et par conséquent, notre Seigneur Jésus-Christ, tel qu'il se présentait sur les routes de Palestine, tel qu'il s'est présenté même à Bethléem comme enfant, notre Seigneur Jésus-Christ est roi. Non seulement il a le caractère de la royauté, mais l'Église nous enseigne que par cette union de Dieu à la nature humaine, à l'âme et au corps humain que notre Seigneur Jésus-Christ a assumé, notre Seigneur est essentiellement, par nature, essentiellement, le Sauveur, le Prêtre et le Roi. Essentiellement. Il ne peut pas ne pas être le Sauveur, parce qu'il est le seul à pouvoir dire qu'il est Dieu. Il est le seul à pouvoir dire qu'il est le prêtre, le pontife, celui qui fait vraiment le lien entre le ciel et la terre. Il est le seul aussi à pouvoir dire qu'il est le roi. Et s'il n'est pas roi selon ce monde, pour un territoire donné, et même seulement pour la terre, pour les hommes, en effet, notre Seigneur est roi non seulement de la terre, mais il est le roi du ciel. Voilà la première raison profonde de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela, nous devons en être convaincus, afin de voir notre Seigneur Jésus-Christ, notre roi à nous personnellement, notre Seigneur Jésus-Christ est notre roi. Mais il l'est aussi pour une seconde raison, et c'est encore le pape Pie XI qui l'explique très bien. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi par conquête. Par quelle conquête ? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a conquis tous par son sang, par sa croix, par le calvaire. Regnavit aligno Deus. Dieu a régné par le bois, c'est-à-dire par la croix. En effet, notre Seigneur Jésus-Christ a conquis par un droit strict, toutes les âmes, quelles qu'elles soient, toutes les âmes qui seront créées par Dieu et qui vivront un seul instant ici-bas sur cette terre, elles sont de droit les sujets de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il les a conquis par son sang, il doit les racheter, il veut les racheter, il désire les racheter toutes et y appliquer son sang, son divin sang, afin de racheter les âmes et de les porter à Dieu et de le conduire à Dieu. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ, par son sang et par sa croix, est de droit aussi notre roi. Et c'est pourquoi, dans les premiers siècles, après la paix de Constantin, lorsque les chrétiens ont pu présenter la croix officiellement dans leurs églises, dans leurs temples, dans leurs lieux de réunion, ils représentaient habituellement notre Seigneur Jésus-Christ comme roi, couronné, couronné de la couronne des rois. Car le Christ est bien notre roi et il l'est bien par la croix. Alors nous devons nous demander, en conséquence de ces principes, de cette nature de notre Seigneur Jésus-Christ roi et de cette conquête que Jésus a faite de nos cœurs et de nos âmes par sa mort sur la croix, nous devons nous demander si vraiment notre Seigneur Jésus-Christ est en pratique, quotidiennement, dans toutes nos actions, dans toutes nos pensées, est-il vraiment notre roi? Et alors le pape XI poursuit dans son encyclique la manière dont notre Seigneur Jésus-Christ doit être roi pour nous. Il doit être le roi de nos intelligences, oui, de nos pensées, parce qu'il est la vérité. Jésus-Christ est la vérité, parce qu'il est Dieu. Alors, est-ce que vraiment notre Seigneur Jésus-Christ est le roi de nos pensées? Est-ce qu'il est vraiment celui qui oriente toutes nos pensées, nos réflexions, notre vie intellectuelle, la vie de notre foi? Est-ce que vraiment notre Seigneur Jésus-Christ est celui qui est la lumière de nos intelligences? Et notre Seigneur Jésus-Christ est encore le roi de nos volontés. Il est la loi. Si les tables de la loi se trouvaient dans l'arche d'alliance dans l'Ancien Testament, elles représentaient précisément notre Seigneur Jésus-Christ qui est aujourd'hui dans nos tabernacles. Mais avec quelle supériorité aujourd'hui nous avons la loi dans nos tabernacles, dans nos arches d'alliance? Ce ne sont plus des pierres froides, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, celui qui est la loi, le Verbe de Dieu est la loi, par qui tout a été fait, en qui toutes choses ont été créées. Et il est la loi non seulement des âmes, des esprits, des volontés, mais il est la loi de toute la nature. Toutes les lois que nous découvrons dans la nature viennent de notre Seigneur Jésus-Christ, viennent du Verbe de Dieu. Et quand on pense que toute la créature suit avec une fidélité incomparable les lois de Dieu, que ce soit les lois physiques, les lois chimiques, les lois de la nature, nature végétative, de la nature sensible, de la nature animale, ces lois sont suivies impeccablement. Et nous, qui devions précisément suivre la loi de Dieu qui est inscrite dans nos cœurs d'une manière intelligente et d'une manière libre, nous devrions justement, à cause de notre liberté, nous attacher à cette loi qui est le chemin de notre bonheur, le chemin de la vie éternelle. Les hommes se sont détournés de la loi. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ doit redevenir le roi de nos volontés. Et nous devons conformer nos volontés à sa loi d'amour, à sa loi de charité, à ses deux commandements qu'il a donnés et qui lui-même a dit renferme tous les commandements, aimer Dieu, aimer son prochain. Ce n'est qu'un seul et même commandement, c'est lui qui l'a dit. Alors, est-ce que vraiment nous conformons nos volontés à la loi de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que Jésus est le roi de nos volontés? Enfin, Jésus doit être, c'est encore le pape XI qui le dit, doit être le roi de nos cœurs. Est-ce que nos cœurs sont vraiment attachés à notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous avons conscience que notre Seigneur Jésus-Christ est tout pour nous, omnia in omnibus? Jésus-Christ est tout et il est en toute chose. Il est celui in ipso omnia constant, dit saint Paul. En lui tout est soutenu, en lui nous vivons, en lui nous sommes. En par lui nous nous mouvons. C'est ce que dit saint Paul dans son discours à l'Areopage. In ipso vivimus, in ipso movemur, in ipso sumus. En lui nous sommes. Il tient tout dans sa main. Alors nous devons nous demander ce que devait penser la très sainte Vierge Marie et saint Joseph. Je pense que c'est là un exemple admirable pour nous. Si nous voulons que Jésus-Christ soit vraiment notre roi, essayons de nous imaginer ce que devait être Nazareth. Jésus, Marie et Joseph. Que devait penser Marie de Jésus? Que devait penser Joseph de Jésus? Il est incroyable, n'est-ce pas? C'est un grand mystère, un mystère insondable de la bonté et de la charité de Dieu. De penser qu'il a permis à deux créatures choisies par lui de vivre avec lui, pour saint Joseph pendant 30 ans, pour la très sainte Vierge pendant 33 ans, dans l'intimité de Jésus, dans l'intimité de celui qui est Dieu, de celui sans lequel ni Marie ni Joseph ne pouvaient parler, ne pouvaient penser, ne pouvaient vivre. Marie portant Jésus dans ses bras, portait Dieu dans ses bras. Comme le dit si souvent l'Évangile, ce n'est pas Jésus qu'elle portait, mais c'est Jésus qui la portait. Car Jésus était beaucoup plus grand qu'elle, puisqu'il était son Dieu. Pensons à ce que pouvait avoir dans son esprit, dans sa volonté, dans son cœur, la très sainte Vierge Marie, vivant avec Jésus, le voyant agir, le voyant avec ses petits camarades, le voyant travailler avec saint Joseph. Eh bien, nous aussi, nous avons la joie de vivre avec notre Seigneur. Si sous la frêle enveloppe de son corps, la très sainte Vierge Marie adorait le Dieu vivant, car elle savait que c'était le Dieu vivant qu'elle avait dans sa maison. Elle le savait par l'annonce de l'ange. Et Joseph le savait parfaitement aussi. Bien nous, nous savons que nous avons dans nos tabernacles aussi, sous la frêle enveloppe de l'Eucharistie, Jésus vivant. Jésus est là. Non seulement nous l'avons dans nos tabernacles, mais nous l'avons d'une manière, encore je dirais, presque plus intime que la très sainte Vierge Marie et que saint Joseph, lorsque notre Seigneur se donne lui-même en nourriture, à nous-mêmes. Songeons que vraiment, dans nos corps, dans nos cœurs, nous portons Jésus. Nous portons le Dieu qui nous porte. Car sans lui aussi, nous ne pourrions ni vivre, ni exister, ni dire une seule parole, ni penser une seule idée. Alors ce Dieu, nous le portons en nous dans l'Eucharistie. Demandons à notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous le recevons en nous, qu'il soit notre roi. Il a le droit d'être notre roi. Qu'il nous donne les pensées de la très sainte Vierge Marie et de saint Joseph. Qu'il nous donne la volonté soumise à sa loi de la très sainte Vierge Marie et de saint Joseph. Qu'il nous donne les cœurs de Marie et de Joseph vis-à-vis de lui. Ces créatures qu'il a choisies de toute éternité pour être ses gardiens, pour être ceux qui ont vécu avec lui. Demandons-leur, demandons à Marie et à Joseph de nous aider à vivre sous le doux royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons et nous espérons qu'un jour nous serons dans ce royaume et que nous le verrons dans sa splendeur, dans sa gloire. Comme nous le disons si souvent lorsque nous récitons l'Angélus, ut per passionem et crucem ad resurrectionis gloriam perveniamur. Pour que par sa passion et par sa croix, nous parvenions à la gloire de sa résurrection. Eh bien, que oui, aussi nous devons passer maintenant par la passion et par la croix de Jésus sur la terre. Un jour, nous parviendrons à la gloire de sa résurrection. Cette gloire qui illumine le ciel, qui est le ciel, car Dieu est le ciel. Alors notre Seigneur Jésus-Christ est le ciel. En lui nous vivrons avec la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Si nous l'avons déjà comme roi ici-bas, alors nous l'aurons comme roi de gloire pendant toute l'éternité. Demandons-le à la très sainte Vierge Marie, à saint Joseph aujourd'hui, non seulement pour nous, mais pour nos familles, pour tous ceux qui nous entourent, pour que cela vienne à la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, qui le connaissent mal, qui ne lui obéissent pas, qui s'éloignent de lui, ayant pitié de toutes ces âmes qui ne connaissent pas le roi d'amour et de gloire, que nous avons le bonheur, en qui nous avons le bonheur de croire, que nous avons le bonheur d'aimer. Demandons à notre Seigneur Jésus-Christ, à Marie et à Joseph, de convertir toutes ces âmes à Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, mes bien chers frères, l'Église, en ce premier dimanche de carême, nous invite à l'austérité. Nous le voyons par les rites mêmes de cette messe, rite austère. Et elle nous invite aussi à méditer sur les raisons que nous avons de faire pénitence. Et cet évangile qui raconte la tentation que notre Seigneur a subi de la part du démon doit nous faire penser que si le démon a eu l'impudence et l'orgueil de s'attaquer à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même alors qu'il savait parfaitement qu'il était le Fils de Dieu, combien à plus forte raison le démon s'attachera à nous perdre. Et car il sait que chez nous, il a bien davantage de chances de nous faire tomber dans le péché. Et c'est pourquoi nous avons besoin de méditer sur les raisons de ce jeûne que l'Église nous demande, de ce carême, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne l'exemple de ce jeûne qu'il a subi pendant 40 jours au désert. Et pour concrétiser d'une certaine manière les raisons, les motifs de notre pénitence, je vous choisirai trois exemples. L'exemple de Sainte Marie-Madeleine, l'exemple de Saint François d'Assise et l'exemple de la Vierge Marie. Sainte Marie-Madeleine a fait pénitence parce qu'elle avait péché. Sans doute, elle avait péché gravement. Elle avait mené une vie dissolue. Mais touchée par la grâce de Dieu, elle se convertit. Et alors, elle décide de se détacher de tout ce qui pouvait l'attirer dans le péché. Voici qu'elle se précipite aux pieds de notre Seigneur, qu'elle brise le vase de parfum si précieux qu'elle avait et répand ce parfum sur les pieds de notre Seigneur. Elle baise les pieds de son Dieu et elle reçoit cette parole si belle, si consolante pour elle. Il lui a été beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Ce geste d'amour de Marie-Madeleine envers notre Seigneur lui a valu encore une grâce plus grande, celle d'être la première à reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection. Voilà comment le bon Dieu récompense, comment notre Seigneur récompense ceux qui font pénitence et ceux qui pleurent leurs péchés. Nous tous, nous sommes pécheurs. Nous tous, par conséquent, nous avons aussi à pleurer nos péchés et à briser tout ce qui peut nous être une occasion de péché, afin de nous attacher à notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avons promis au jour de notre baptême. Saint François d'Assise, par contre, lui, autant que l'on peut savoir, ne menait pas une vie dissolue. Il aidait son père dans son négoce, mais il a eu peur, il a craint que ce négoce, que cette recherche de l'argent, des biens de ce monde, ne lui fasse perdre son âme. Il sentait sa faiblesse et il décida, poussé par la grâce de Dieu, de rompre aussi avec toutes les choses d'ici-bas. Tout ce qui peut, d'une certaine manière, exciter nos appétits désordonnés, car c'est bien en cela que nous sommes faibles. Les suites du péché originel sont encore inscrites dans nos cœurs, dans nos âmes, comme des blessures. Et nous sommes malades, nous avons besoin de guérir. Alors pour guérir, il nous faut faire pénitence aussi, afin de rétablir l'ordre en nous. Et c'est ce que saint François d'Assise a voulu faire. Il aurait pu devenir riche, il a choisi la pauvreté. Il aurait pu devenir puissant, il a choisi l'ignominie, l'humilité. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous montre par la récompense qu'il a donnée à saint François d'Assise, combien il apprécie la pénitence qu'il a faite, et combien cet exemple nous encourage, nous aussi, à faire pénitence. Notre Seigneur lui est apparu sur sa croix, rayonnant, et les rayons sortant des mains et des pieds et du cœur de Jésus ont transpercé saint François d'Assise, et il a été marqué par les stigmates de notre Seigneur. Ainsi, Dieu récompense ceux qui font pénitence en répandant dans leurs âmes un amour total pour lui, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, la Vierge Marie, elle, n'avait pas de raison, n'avait pas ses raisons de faire pénitence, puisqu'elle n'a pas péché, puisqu'elle n'a pas connu le péché originel, par conséquent, elle n'a pas connu non plus les suites et les maladies. La très sainte Vierge Marie est toute pure, immaculée dans sa conception. Pourquoi fait-elle pénitence alors? Et c'est le troisième motif, le plus noble d'ailleurs, pour nous de faire pénitence, s'associer à la rédemption de son divin Fils. Si Jésus aussi a voulu verser son sang, répandre son sang pour nous racheter, lui qui était Dieu, lui qui n'a pas connu le péché, la Vierge Marie aussi qui n'avait pas connu le péché, a voulu s'associer dans sa douleur. Et c'est pourquoi elle a été appelée Mère de douleur, Notre-Dame de compassion, Reine des martyrs, parce qu'un glaive lui a transpercé le cœur. Alors elle a associé ses douleurs, ses souffrances, ses épreuves aux souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le motif le plus beau, le plus grand, le plus fort pour lequel nous devions faire pénitence, afin d'associer aussi nous nos épreuves, associer notre sang en quelque sorte à celui de notre Seigneur Jésus-Christ, afin de sauver les âmes, afin de participer à sa rédemption. Voilà, mes bien chers amis, mes bien chers frères, les trois motifs pour lesquels nous devons faire pénitence, mais surtout par amour pour notre Seigneur Jésus-Christ, par désir de nous associer à ses intérêts, à ses désirs, à son but qui est de sauver les âmes, qui est de répandre son sang sur les âmes. Que nous aussi nous fassions tout, que nous acceptions non seulement les quelques pénitences que nous nous imposons, mais aussi les pénitences que le bon Dieu nous impose par la providence. Pénitences dans les difficultés de santé que nous pouvons avoir, dans les difficultés d'accomplir notre devoir d'État, que des preuves dans nos familles, dans nos connaissances, dans nos amis, dans tout ce qui nous entoure, que de douleurs, que de souffrances. Acceptons toutes ces souffrances en union avec celles de notre Seigneur Jésus-Christ pour la rédemption des âmes. Demandons à la Vierge Marie de nous faire comprendre la nécessité de cette souffrance et de cette pénitence, afin de nous associer à elle et de recevoir comme elle la récompense éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.